nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Semer le vent. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Elle lui dit, oui, merci, monsieur. Je lui dirai de venir vous voir le plus vite possible. Merci, mademoiselle. Je vais vous quitter. Au revoir. Au revoir, monsieur. Il remonte dans son fiacre et la laisse. Elle se sent songeuse et attristée. Que va-t-elle devenir? Que vont-ils devenir? Et puis, ce château démoli? Ah non! Durant toute la journée, elle pense à ça et a hâte que son frère revienne. Enfin, il arrive, épuisé de sa journée, la retrouve au salon et lui dit « Je me sers un verre de cognac. Est-ce que tu en veux ? Non, merci. » Une fois qu'il s'est servi, il va s'asseoir près d'elle. Ils se sont assis près de la cheminée. Les journées sont chaudes, mais pas les soirées. Elle lui dit, j'ai eu la visite du notaire et veux que tu ailles le voir le plus vite possible. il est tout rouge. Elle lui dit, c'est très urgent. Il paraît qu'il ne peut plus s'occuper de nos affaires. Parce qu'il faut que tu prennes des décisions. Lui ne peut plus en prendre. Il m'a même parlé de vendre le château et qu'on allait le démolir. Est-ce vrai ? Il lui dit gêné. Hélas, nous avons beaucoup de débiteurs et notre château, si je ne sais pas si nous pourrons le garder. Elle lui dit, les larmes aux yeux, le château, que veux-tu? On va le démolir. Les nouveaux propriétaires feront ce qu'ils voudront. Je veux garder le château. Il lui dit. Et avec quoi? Quel argent? Nous n'avons plus rien. À part nos terres, ce château. Rien. Sauf notre nom. La seule chose qui ait de la valeur, c'est notre nom. L'histoire de notre famille. Elle lui dit, mais le château, c'est notre famille. Il lui dit, il se dégrade. Et seul notre nom ne disparaîtra pas. Enfin, je l'espère, parce que lui aussi, et bientôt, il ne restera plus rien si on n'a plus de l'argent pour rénover le château. Le château ne supportera pas le temps, notre nom oui, mais pour notre nom, il faut faire vite aussi. Le temps passe tellement vite. Elle lui dit, alors que faire? Il lui dit, il n'y a que notre nom. Qui sait que nous sommes quelque chose. Et qui peut nous aider pour préserver ce que l'on a. Elle lui demande, que veux-tu dire? Et Cyprien lui dit, tu te maries? Ça va? Si tu ne te maries pas, on n'a plus rien. Elle lui dit, mais si je me marie, je perds mon nom. Donc, je ne donne rien à ma nouvelle famille. Il lui dit, pas ton nom, mais ce que tu es. Et ça anoblit, c'est beaucoup. Elle lui fait, mais toi tu peux te marier, tu donnes vraiment ton nom à la personne. Je le sais. Moi, je suis un homme. Oui, je donnerai mon nom. Moi aussi. Je n'aurai rien à donner. Pas de fortune. Alors personne ne voudra de moi. Pour que je puisse trouver à me marier, il faut que je me retrouve un peu de bien. Pour que je puisse garder ce que j'ai. Et pour cela, tu dois te marier. Pour m'aider à garder ce que nous avons. Et après, grâce à toi, je pourrai me marier. Et lui dit, il faut que je me sacrifie pour nous deux. Oui, hélas, tu es la seule fortune qui nous reste, qui me reste. Et puis, comme je te l'ai dit, je ne peux pas me marier si je n'ai pas de fortune. Il n'y a que toi qui peux m'amener de la fortune. Elle lui dit, alors, je suis une chose à vendre. La seule chose à vendre. Ne dis pas ça. Si tu te maries, ça se fera avec ton consentement. Et si je me mariais pas? Il lui dit, eh bien, ne rends plus rien. Elle lui dit, si moi, j'aurais Luc, il lui dit, tu ne sais même pas où il est. Tu peux l'attendre longtemps? En attendant, tu perdras tout. Elle a mal. Je ne peux pas me marier avec une personne que je n'aimerais pas. Tu peux la respecter. Je ne sais pas si j'en aurai le courage. Non. Elle a les larmes aux yeux. Elle lui dit, vends tout ce que tu veux, ce que tu peux. Il lui dit, il ne restera plus rien. Comme nous n'avons plus rien. Parce que, une fois que nous aurons tout payé ce que nous devons, il lui dit aussi, le château. Et il est furieuse et lui dit, oh, le château, le château. Pourquoi sommes-nous tant attachés à celui-là? La vie serait si facile sans ça. Et Luc, où est-il? Il lui dit, ne t'énerve pas, ce ne sont que des pierres. Il lui dit, mais tu as une histoire, une arme. Il lui dit, et ton Luc, qu'une belle image qui se flétrira. Elle lui dit, mais lui aussi est une arme. Mon Dieu, que faire? Il lui dit, si tu veux garder ce château, perdre le château. Si on perd le château, nous n'aurons plus rien. Nous serons des vagabonds. Elle soupire, va à la cheminée, regarde le feu. Et elle se dit, tu es une grande fille maintenant. Tes rêves sont finis. Demandez-la à ta porte. Tu ne peux pas faire autrement que de vivre autrement. Autrement, tu deviendras une vieille poupée chiffonnée, sale, oubliée dans une malle, dans un grenier. Il faut quitter tes rêves. Lui aussi, Luc aussi fait partie de l'enfance. Il est un peu comme le prince charmant des contes dont rêvent les jeunes filles, un prince de papier. Mon frère a raison. Si je refuse ce qu'il me dit de faire, je vais tout perdre. Le château, ma vie tranquille. Et lui, lui aussi, sa vie sera gâchée. Nous ne serons que des vagabonds. Des vagabonds que personne ne voudra. Elle soupire, se retourne et lui dit, je veux bien faire ce que tu me demandes, mais ne demande pas d'aimer cette personne. Mon corps sera toujours à Luc. C'est le seul rêve de mon enfance et qui va me rester. Il se dit, bien, il lui dit, et château, et soupir lui dit, oui, le château. se lève, va à elle, l'embrasse et lui dit « Merci ». Elle lui dit « Allons-nous coucher, je suis fatiguée ». Lendemain, Franck est allé à la ville, ou plutôt au bourg voisin, pour voir son notaire. Il lui a dit « Faites patienter les créanciers, ma sœur va se marier avec monsieur Gilbert Georges, avocat impérial à Paris. Il fait partie de la haute cour et un domaine dans notre région, le domaine du Ventoux, qui appartient à sa famille depuis des générations. » Elle lui dit « Je vous félicite, mais est-ce que ce projet de mariage ?» Franck lui dit « Monsieur de Gilbert est amoureux fou de ma sœur et ne désire que de se marier avec elle. Mais si ces hommes d'affaires apprennent que nous n'avons plus rien, rien que notre château, cela risquerait peut-être de refroidir la chose. Il pourrait lui expliquer que c'est peut-être une mésalliance et la chose risquerait, malgré qu'il soit fou d'amour pour ma sœur, d'être interrompue. Ce serait dommage si le mariage ne se faisait pas, surtout pour mes créanciers qui risqueraient d'y perdre eux aussi, car malgré la vente de mes biens, cela ne suffit pas pour tout rembourser. Tandis qu'avec ce mariage, je peux faire un prêt et le rembourser. Et puis moi-même, je peux marier et rembourser le prêt que j'ai fait. Comme cela, tout rentrera dans l'ordre. Donc, il faut que le mariage de ma sœur se fasse. Et cela, les créanciers doivent laisser les choses se faire. S'ils veulent récupérer quelque chose, à moins que quelque chose arrive et qu'un vieux château en ruine leur suffise. Le père lui dit, c'est ce que je leur expliquerai. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais que les choses se fassent le plus vite possible. Enfin, le plus vite que l'on peut. Merci, monsieur le notaire. Hilde est dans tous ses états. Maintenant qu'elle a dit oui, elle ne peut se rétracter. Mais elle se demande si elle n'a pas fait de bêtises. Elle aime toujours Luc. Sacrifier Luc pour son frère et pour le château, est-ce bien ? Elle ne sait plus. Elle aimerait que Luc vienne et l'emmène avec lui. Il se promène dans le parc en se disant, pourvu qu'il vienne, vienne me chercher, je quitte tout ça. Sa décision est prise. Oui, elle quittera tout ça. À chaque tournant du parc, son corps palpite en se disant qu'elle va peut-être le rencontrer. Mais non, l'allée reste vide. Elle voit les heures passer et rien. Son frère a eu le temps d'aller voir le notaire et de tout arranger en disant qu'elle allait se marier. Que tout est de sa responsabilité, que toute sa responsabilité sont sur ses épaules. Qu'elle croit devenir folle, oui, de devenir folle, toutes ses responsabilités sur ses épaules. Son frère l'a bien eu, oui, il l'a bien eu, en mettant toutes les responsabilités sur elle. Et elle a pris la décision. Et si ne veut pas que ce soit elle la responsabilité, le responsable, mais lui, oui, si le notaire ne veut pas de ce mariage, puis qu'elle lâche la seule solution qu'il a trouvée, alors problème, c'est de demander à elle de prendre la décision. Et quelle décision? La décision de sa vie, à elle, sa vie. Si elle choisit d'être heureuse, elle devient injuste, ingrate, une criminelle qui sacrifie son frère pour son bonheur à elle. Mais lui, ne fait-il pas la même chose? Il lui demande de se sacrifier pour lui, parce que il ne peut pas se faire riche, faire un riche mariage. Et c'est pour cela qu'il veut la mettre en vente comme un bien, un simple bien, même s'il dit que c'est le bien le plus précieux qu'il reste. Et elle a accepté ça. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit qu'elle devenait une femme et qu'une femme devait avoir, enfin, le sens du sacrifice, devait se sacrifier. Oui, être adulte, c'est accepter les sacrifices. Alors, si c'est ça, être adulte, il n'y a pas de bonheur pour eux, pour elles. Et si un enfant, peut attendre le bonheur, et comme en devenant adulte, on doit sacrifier ses espérances, ses illusions de bonheur, l'enfant attend le bonheur pour rien, puisque le bonheur n'existe pas. Dans une vie, on n'est jamais heureux. Non, jamais heureux. Au début de sa vie, on rêve de bonheur. Et après, l'on doit se séparer de ces rêves-là, parce que la réalité, et la vie, et c'est le devoir, c'est se sacrifier. Et puis, on doit dire non à ce que l'on est. Une fois que l'on est dépouillé de tout, il ne vous reste plus qu'à mourir. Elle se dit que c'est horrible, la vie. La chair se flétrit en même temps que ce que nous sommes. Que nos illusions s'en vont pourquoi tout ça? À quoi cela sert-il? Elle a fortement envie de pleurer et de mourir, mais au fur et à mesure qu'elle marche, son corps se détend et la chose la plus horrible qui soit vient en elle, l'espoir. L'espoir, ce poison terrible qui permet de tout accepter de la vie. L'espoir qui permet d'aller jusqu'au bout de son calvaire. Elle a espoir que tout va s'arranger et que Luc va apparaître comme un chevalier et la prendre par la main, la mener loin, loin de ce monde pour la guider, la protéger, l'emmener dans le monde où l'on ne vit jamais, où l'on ne perd pas la joie de la jeunesse, de l'éternelle jeunesse. Luc va la sauver et l'empêcher d'ouvrir cette porte maudite de la réalité pour la rendre adulte et la dépouiller de tout. Oui, Luc, viens, je te veux. J'ai espoir que tu viennes. Oh, mon Dieu, c'est un miracle. Que se termine ma destinée. Que ma destinée change. Oh! Elle tremble à froid. La porte de la réalité vient de s'ouvrir. Georges la voit. Vous n'êtes pas bien, mademoiselle? Elle ne dit rien. Il lui dit, je suis confus. Je vous ai fait peur. Pardonnez-moi. Mais vous êtes toute tremblante et pâle. Venez. Allons nous asseoir sur ce banc. Vous pouvez vous reposer. Il la prend par la main, la guide. Que vous avez les mains froides. Je suis confuse. J'aurais dû vous prévenir. J'ai dû vous faire peur. Il la fait asseoir sur le banc et s'assoit à côté d'elle. Elle lui dit, ce n'est rien. Je pensais ne pas trouver quelqu'un dans le parc. Il lui dit timidement, oui, j'aurais dû vous prévenir. Je suis venu par hasard avoir de vos nouvelles. Je vois que vous allez mieux parce que vous êtes dehors. J'en suis très heureux, elle lui dit. Si vous voulez, nous pouvons aller au château. Il lui dit, non, reposez-vous. Votre frère est présent. Elle lui dit, il est parti voir son notaire pour affaires. Je ne sais pas quand il reviendra. Bien, j'espère que ça ne vous ennuie pas que je suis venue. Elle lui dit, non, pas du tout. Elle se remet petit à petit et doit jouer la maîtresse de maison. Et lui dit, vous savez, j'ai beaucoup d'affection pour vous. Elle rougit, ça la gêne beaucoup. Elle lui dit, je le sais. Mon frère m'a dit, elle lui dit, je pense à vous très souvent et je vous trouve délicieuse. Je sais, je ne suis pas une personne très romanesque pour une jeune fille comme vous, mais je vous aime. Et j'ai... demandé la permission de vous aimer. Ça m'est difficile. Vous êtes si belle. Elle lui dit, je vous remercie. Je suis très émue, mais je crois que... je ne crois pas que je suis digne de vous. En fait, je ne peux pas vous porter de l'affection. Je suis vraiment confuse. Je ne peux pas vraiment vous aimer. Il a mal. Lui dit, je comprends, j'étais stupide. Elle lui dit, je pourrais me marier avec vous, mais qu'en vous respectant, il se dit, elle ne m'aime pas. Il est effondré, il lui dit, sachez que je vous aime et que votre refus me fait beaucoup souffrir. Elle lui dit, je n'ai pas refusé d'être votre femme. Il dit, mais mon amour, elle lui fait, je sais, pardonnez-moi. Elle se lève, lui aussi. Il lui dit, je crois que je pourrais bien vous laisser. Pardonnez-moi. Elle lui dit, non, c'est moi. Il la quitte. Elle se met à pleurer et se dit, mon Dieu, comme c'est dur. Pourquoi lui et pas l'autre? Pourquoi vouloir tout me dépouiller? Pourquoi vous vouloir autant de mal? Que vous ai-je fait, mon Dieu, pour me refuser que je sois heureuse? Georges entre chez lui, est effondré. Il se dit qu'elle ne l'aimera jamais. Il va s'enfermer dans sa chambre. Puis, énervé, il va à la chapelle du château. Là, dans la chapelle, il va s'agenouiller devant l'autel et pleure. La chapelle est fraîche, elle sent les fleurs et l'encens, la lumière est douce. Les vitraux sont simples et très clairs. Il dit, mon Dieu, pourquoi me faire aimer une personne qui ne peut m'aimer? Que vous ai-je fait? N'ai-je pas été un bon chrétien? Je ne demande à la vie rien d'autre que d'être aimé. Vous mettez sur mon chemin une jeune fille que j'aime et qui ne peut m'aimer. Pourquoi? Vous savez que je l'aime vraiment et que je suis capable de la rendre heureuse. Alors, que vous ai-je fait? Pourquoi me refusez-vous ce bonheur ? Sans le savoir et au même moment, ils posent tous les deux la même question à Dieu. Et si Dieu rend heureux l'un, il rend malheureux l'autre. Lequel va-t-il choisir ? Et quel est celui qui sera heureux ? De toute façon, celui qui sera heureux ne le restera pas. Il deviendra malheureux parce qu'il se rendra compte qu'il n'est pas aimé, donc il sera malheureux. Et puis, tous les deux mourront. Ce que veut Dieu finira de la même façon. Que Dieu décide que l'un ou pour l'un ou pour l'autre, ça n'a aucune importance. C'est pour cela qu'il s'en fiche et prend son temps. Il sait que tout est éphémère dans le monde qu'il a créé, que tout n'est qu'illusion, même l'amour. L'on aime ce qui n'est pas et ne sera plus. La vie, le monde, ce n'est que de la poudre aux yeux. Et pour que ça marche, Dieu a inventé l'espoir. Espoir d'une meilleure vie, etc. Il se marre, Dieu, en voyant tout ça. Il n'y a que lui qui n'est pas illusion. Et comme il est seul, ça ne lui sert pas à grand-chose. En fait, il a inventé un immense monde virtuel qui plane dans le néant, il se détruit et se recrée jusqu'à ce qu'il ait dit stop. Pourquoi a-t-il créé ça ? Comme ça ? Malheureusement, dans ce monde virtuel, qu'il a trop perfectionné, il a donné une âme aux êtres qui y vivent. Et ces petites choses souffrent parce que dans l'âme, il y a l'espoir. S'il n'y avait pas âme, s'il n'avait pas donné une âme aux choses virtuelles, sans l'âme, elle n'aurait pas souffert, n'aurait pas connu l'espoir, mais elle n'aurait pas été libre et n'aurait pas pu se déplacer seule. Dieu aurait toujours été obligé de se servir de sa console. Là, ça marche seul, pas la peine d'appuyer sur le bouton. Et ils se battent sans qu'on les fasse se battre. Ils souffrent sans qu'on leur demande. Et ils souffrent sans qu'on les gronde. C'est plus drôle, un jeu virtuel qui marche lui-même, où les personnages sont libres de leurs mouvements. Et puis, c'est plus intéressant parce que les découvertes, on ne les prévoit pas. Dieu, donc, a eu raison de donner à ses personnages une âme et l'espoir. Son truc marche seul. Bien sûr, il peut intervenir et changer les choses, en y mettant un personnage, par exemple, à lui. Mais c'est moins drôle pour lui. Dieu est resté un grand enfant qui aime jouer avec ce qu'il a créé. Jouer et suivre ce qui se passe. et il a vu des millions de destinées différentes. Et ça en fait des histoires. Il a l'éternité pour se distraire. Fermons cette parenthèse. L'histoire se déroule à une époque où le virtuel n'était pas encore à la mode. Georges est dans ses pensées. Il prie Dieu de l'aider pour que Hilde l'aime.
Pourquoi priez-vous, mon fils ?
Il lève la tête et voit le curé de la chapelle. C'est un homme petit, maigre, cheveux blancs. Georges lui dit : Je demande à Dieu de m'aider, mon père.
Eh bien, mais Dieu ne peut être de partout. Il ne fait que s'occuper que de choses sérieuses, pas de choses anodines.
Georges lui dit, « Je le sais, mon père, mais ce n'est pas une simple chose.
Vous pouvez me le dire. »
« Oui, bien sûr, mon père. Je suis amoureux d'une jeune fille. Elle accepte de se marier avec moi, mais me dit qu'elle ne m'aimera jamais. » Le prêtre lui dit,
« Quelle orgueilleuse! Seul Dieu donne l'amour. Et pourquoi ne vous aimerait-elle pas ?»
Georges lui dit, « Je ne sais, mais ce doit être parce qu'elle en aime un autre. C'est pour me dire, mon père, que je dois en chercher une autre, mais je ne le peux. Vous savez qu'une personne est unique et... Je souffre beaucoup. J'aimerais, c'est que Dieu puisse m'aider. Le prêtre réfléchit, lui dit,
Dieu. Mette sur votre chemin. A-t-il voulu que je vous aide?
Je vous remercie, mon père. Et comment? Le prêtre dit,
vous savez que je suis prêtre et que j'ai appris certains secrets de la nature qui n'ont rien de merveilleux ou de miraculeux. Je connais quelques plantes qui peuvent rendre de grands services. Venez avec moi.
Se lève et suit le prêtre. Ils sortent de la chapelle. Et vont à la sacristie. Qui est les appartements du prêtre. Qui se trouve dans une maison attenante à la chapelle. Elle va directement dans la chapelle par une porte de la maison. En passant par un couloir.
Entrez.
Une fois chez lui, le prêtre lui dit,
suivez-moi.
Pièce qui ressemble à un laboratoire avec des rayonnages pleins de bocaux, une table avec des instruments en verre pour faire chauffer du liquide, etc. Enfin, vous voyez la chose. Le prêtre lui dit,
c'est mon laboratoire et c'est là que je fais mes recherches. Les recherches sur les plantes. Il y a des plantes qui qui ont du poison terrible, et d'autres qui guérissent certaines maladies. D'autres ont ni poison, ni ne guérissent, mais changent l'âme des gens. Elles les rendent plus heureux, plus calmes. La personne oublie ses peines et se sent bien. Elle peut aimer aussi ce qu'elle n'aimait pas. Elle a le pouvoir de voir les choses que l'on ne voit pas. Elle permet, c'est d'être plus près de Dieu.
Georges lui dit, tout ceci est très bon, mais pour moi, le prêtre lui dit,
pour vous, ça peut être utile. Certaines plantes peuvent aider à vous faire aimer et rendre heureux votre compagne. Elle ne pourra plus se passer de vous. Parce que si vous lui procurez certaines choses, et si elle n'est plus avec vous, n'aura plus certaines choses, alors elle se sentira malheureuse. Parce que le monde lui paraîtra insupportable. Juste une goutte dans n'importe quoi, et c'est sans odeur. Vous voyez ? Et cette goutte, si vous ne lui donnez pas, elle aura mal. Sans vous, elle se sentira mal, parce qu'elle n'aura pas cette goutte.
Je lui dis, mais moi, je veux qu'elle m'aime vraiment, et pas avec un élixir.
Le prêtre lui dit, au bout d'un moment, elle n'aura plus besoin de ce produit pour vous aimer. C'est juste au début qu'elle en aura besoin. Mais tant qu'elle en a besoin, vous devez lui en donner. Et elle-même, elle vous dira qu'elle en aura besoin. Elle vous en demandera. Enfin, c'est ma philosophie, parce que je n'ai pas encore expérimenté cette chose. Alors, est-ce que je peux vous donner une de ces fioles ?
Georges réfléchit et lui dit, je ne sais pas, peut-être. Donnez-la moi, je verrai. Mais ça me fait un peu peur. Le prêtre lui donne une petite bouteille avec un liquide rouge, toute petite bouteille. Il lui dit,
attention, juste une goutte dans n'importe quoi. Ça n'a pas d'odeur, rien.
Georges lui dit, merci, je vous dois combien ?
Le prêtre lui dit, c'est un essai. Alors, après l'expérience, si ça marche,
merci.
Et Georges le quitte.
Lorsque Franck revient, il a retrouvé Hilde au salon. Pendant ce temps, Georges ne sait plus où il en est.
nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Semer le vent. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.